Billets d'Europe, animé par Jean-François Biardeau et Daniel Bernussou de la Maison de l'Europe, Europe Direct Limousin.
Alors, au plan européen, vers une pollution zéro pour l'air, pour l'eau, pour les sols, alors nous avons vu l'air, nous avons vu l'eau, et qu'en est-il pour les sols? Est-ce une impression? La pollution des sols est quelque peu secondaire, voire négligée.
Oh, le négliger, le mot est peut-être un peu fort, Jean-François, mais je vous suis assez dans votre impression. La pollution des sols est en effet moins médiatisée, c'est ce que vous voulez dire, je pense, que celle de l'air et de l'eau. Alors, cela tient peut-être à ces manifestations moins directement observables et à ces effets moins spectaculaires, bien que pourtant très réels, hein, en termes de qualité de l'eau, de santé humaine et de biodiversité. Je crois cependant que l'explication principale est autre. Alors que l'air et l'eau sont considérés comme des biens naturels et communs, et à ce titre présents dans les débats publics, le sol est perçu comme un bien privé, relevant du droit de propriété et à vocation utilitariste et économique appuyée sur la liberté d'entreprendre. Or, cette approche juridico-utilitariste débouche sur un bilan inquiétant, hein, pour l'Union, qu'on en juge. Chaque année, dans l'Union, environ 1 milliard de tonnes de terre sont emportées par l'érosion, soit l'équivalent d'un mètre de profondeur sur une surface correspondant à la superficie de Berlin. Quand même.
Hein. Et c'est très grand, Berlin.
C'est très grand, Berlin. C'est une ville très vaste, effectivement. Le drainage d'environ 50 000 km² de tourbières à des fins agricoles provoque une diminution des stocks de carbone présents dans les sols et libère ce même carbone dans l'atmosphère. Près de 3 millions de sites sont potentiellement pollués par des activités comportant un risque industriel. Chaque année, sur une base nette, plus de 400 km² de terres, principalement agricoles, sont transformées en zones urbaines et en infrastructures. Vous savez, c'est la fameuse artificialisation des sols. La gestion intensive et les changements d'affectation des terres ont une incidence négative sur la biodiversité des sols, alors les vers de terre, mais aussi les acariens, les collemboles et compagnie. La salinisation d'origine humaine touche près de 4 milliards d'hectares dans l'UE, avec une salinité des sols élevée le long des littoraux, en particulier en Méditerranée. En Europe méridionale, centrale et orientale, un quart des sols présente un risque élevé ou très élevé de désertification. Ça représente plus de 400 000 km², c'est-à-dire une surface supérieure à la superficie de l'Allemagne. Alors, si on globalise tout ça, au total, donc en 2020, 60 à 70% des sols de l'UE sont considérés comme en mauvaise santé et environ 70% des terres agricoles de l'UE présentent des niveaux excessifs de nutriments.
Alors, ça fait effectivement beaucoup, c'est énorme, mais ça ne date pas d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, qu'a fait l'Union européenne jusque-là?
Alors, si on s'en tient à la législation, ben, on pourrait répondre « rien ». Puisqu'aucune législation spécifique n'existe. En réalité, l'Union a essayé, mais elle a échoué. Dans le cadre du 6e programme d'action pour l'environnement de 2002 à 2012, et sur la base de la dégradation intense des sols, la Commission Barroso, en septembre 2006, a présenté une stratégie et une directive cadre sur la protection des sols. La directive sol définissait un cadre et des objectifs communs aux États membres. Répertorier les sites contaminés dans un délai de 6 ans, lister les zones prioritaires de protection spéciale contre l'érosion, la salinisation, l'acidification, la perte de la matière organique, et les glissements de terrain, les affaissements, notamment miniers, la désertification, l'appauvrissement de la biodiversité des sols dans un délai de 5 ans. Des stratégies réparatrices des sols pollués ou dégradés devaient être élaborées dans un délai de 7 ans. Principe de subsidiarité aidant, une flexibilité était laissée aux États. Adoptée par le Parlement européen en novembre 2007, la directive a été rejetée en décembre au Conseil par l'Allemagne, l'Autriche, les Pays-Bas, le Royaume-Uni et
la France. Ah, et aujourd'hui, y a-t-il une volonté de faire bouger un peu les lignes ?
Alors, face au constat scientifiquement établi d'une situation qui est proprement accablante, près de 3 millions de sites potentiellement pollués par des activités comportant un risque industriel, je vous l'ai dit tout à l'heure, un quart des sols présentant un risque de désertification et forte de l'ambition du Pacte vert, la Commission, appuyée par les États, notamment du Sud et de l'Est de l'Europe, a proposé en novembre 2021 une stratégie en faveur des sols. Poursuivant certains des objectifs du Green Deal, elle prend place dans une série de stratégies et de politiques déjà décidées par la Commission européenne. Alors ça va de la ferme à la fourchette au plan d'action pour une pollution zéro, de la stratégie pour la biodiversité à la nouvelle PAC. D'ici 2023, la Commission présentera une proposition législative pour parvenir à une bonne santé des sols, restaurée, résiliente et protégée dans l'ensemble de l'UE d'ici 2050. Alors, quelques exemples d'actions importantes que la Commission s'est engagée à prendre. Premier exemple, définir des objectifs juridiquement contraignants pour limiter le drainage des zones humides et des sols organiques et restaurer les tourbières gérées et drainées. Élaborer en consultation avec les États membres et les parties prenantes un ensemble de pratiques dites de gestion durable des sols. Aider les États membres à mettre en place par le biais de fonds nationaux et à destination des agriculteurs le programme, ouvrez les guillemets, tester votre sol gratuitement. Présenter l'initiative agricole d'une agriculture carbone pour des pratiques agricoles vertueuses avec une proposition législative sur la certification de l'élimination du carbone en 2022. Financer des projets de recherche dans le cadre Horizon Europe sur les plastiques dans le sol. Enfin, continuer à soutenir l'initiative de la Grande Muraille Verte pour prévenir la désertification en Afrique, le fameux Regreening Africa. Alors, au total, longtemps oublié du droit européen, les sols bénéficient aujourd'hui de l'attention de la Commission, mais les réticences anciennes de plusieurs États, dont la France, à laisser l'Union légiférer en la matière, restent fortes. Aujourd'hui, la guerre en Ukraine menace sérieusement l'entrée en application des mesures de protection des sols agricoles inscrites dans le Pacte vert.